Moi, je suis le fondateur de cette maison Cartala, donc j'ai fréquenté le 13e du boulevard Arago durant plus de 30 ans ici, presque 40 ans maintenant. Alors, ça fera 40 ans l'année prochaine, quoi. Enfin, 80 plutôt, 80 2000, donc ça fera en 2020, quoi, dans 2 ans. Donc, Cartala est une maison spécialisée. Par rapport à des grandes maisons généralistes, avec une orientation internationale très importante sur l'Afrique, sur les pays du Sud qui sont devenus les pays émergents dans cette mondialisation extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, qui parfois nous donne le tournis ou même parfois nous angoisse un peu, hein, par toutes les adaptations qu'il faut vivre. Et bon, nous essayons de nous adapter. Moi-même, j'ai passé la main il y a quelques années et j'ai quitté la maison il y a 2 ans. Comme, disons, travailleur encore ici, et c'est passé à une jeune équipe qui essaye de relever le défi extraordinaire de conduire ou animer une petite maison d'édition privée indépendante dans une époque qui a beaucoup changé, quoi, y compris le livre par rapport à toutes les versions numériques maintenant qui existent, les e-books, les applications smartphones, tout ça, quoi, que vous connaissez, en particulier les plus jeunes, bien plus que moi. Alors, dans ce catalogue, nous avons été amenés aussi à toucher la guerre 14, puisque à côté du livre de Jean-Pierre Hammer, il y a des livres notamment sur les Africains qui ont participé, on en parle pas mal ces temps-ci aussi, les tirailleurs sénégalais, enfin, les Africains et la Grande Guerre en Afrique elle-même, parce qu'il y a eu ils sont des contreparties à la guerre 14, dans la guerre elle-même, d'abord par le départ des soldats qui ont été recrutés, des Africains qui ont été recrutés, et puis aussi des contreparties militaires en Afrique de l'Est notamment, quoi, qui ont fait l'objet d'un petit livre qui sera présenté ici, quoi. Alors, dans la commémoration de la guerre 14, nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Hammer, mais qui était déjà trois fois auteur chez nous, à enfin, deux fois plus une distribution, plus une deux,
non,
trois fois,
trois fois,
trois fois, trois fois. D'abord, Destination Madagascar, c'est la plaquette qu'on va faire circuler qui donne
mais on le voit derrière,
tous les ouvrages,
on le voit
vous
là-bas.
l'avez aussi là-bas, oui, d'accord, oui, qui donne tous les ouvrages de Pierre Hammer. Le premier, c'était Destination Madagascar, parce que Jean-Pierre a été enseignant plusieurs années à Madagascar. Enfin, vous le savez sans doute.
Oui.
Et puis ensuite, il y a eu les potières de Madagascar.
Bravo la potière.
Bravo la potière, oui. C'est un petit livre spécialisé, mais sur les hautes terres de Madagascar. À Madagascar, chez les Afir-Rapiniri, mais c'était chez Ibis, je crois.
Oui, c'est ça.
Puis l'éditeur qui existe, qui était rue de Broca, pas loin d'ici, mais qui est...
Il a pris sa retraite.
Il a arrêté son activité.
Et il a passé des livres à Cartala.
À Cartala, c'était ça l'origine. Voilà, je cherchais l'origine de... Voilà. Et puis, donc le dernier, c'est celui que vous avez entrevu déjà, sur les tirailleurs, sur les...
Sur Santi, agent de liaison, Marcel Santi.
Les dessins
de Marcel Santi
qu'il a fait sur la Grande Guerre, quoi. Bon, c'est notre manière à nous de commémorer ce gigantesque quand même effort qui est fait depuis 4-5 ans maintenant pour rappeler aux Français, rappeler au monde quoi ce qu'a été cette guerre de 14 extraordinaire. Moi, j'ai aussi personnellement vécu ça. J'ai un grand-père qui est décédé en 56. J'avais 18 ans en 56, qui lui était artilleur. Il était charron-forgeron de son état. Donc il a fait des charrettes, des charpentes, enfin, à une époque où il n'y avait pas de mécanique électrique, où il n'y avait pas de moteur électrique. Donc j'ai assisté à une de ses dernières charrettes en Vendée, un pays qui était à l'époque extrêmement rural dans sa composition. Et il était artilleur probablement à cause de ses aptitudes de charron-forgeron, de précision, de calcul sans avoir fait des maths, quoi. Et il a passé toute la guerre, il est revenu, il a été même à Verdun à une époque, dans la fin de la guerre, parce qu'on a fait une petite trajectoire de son départ jusqu'à la guerre elle-même, du côté de la Marne, tout ça. Et donc j'ai un peu une commémoration personnelle aussi à cette occasion de ce soir. Quoi. Mais je ne crois pas qu'il... Évidemment, il n'a pas connu tout ça. Et surtout que la guerre 39-45, rappelons-nous qu'il y a eu que à peine 20 ans, 20 ans, 21 ans entre les deux guerres. Hein, 20 ans, 20 ans, c'est long quand c'est devant nous. Mais rappelons-nous, 20 ans, nous, c'était en 2000, un petit peu avant 2000. Quoi. Donc cette guerre 39-45 a été une autre guerre technologique complètement différente. Et... tout à fait mondiale, d'une autre façon. Et elle a un petit peu passé dans un deuxième, en arrière-plan, quoi, la guerre 39-45, comme la guerre de 70 au 19e siècle est encore beaucoup plus éloignée de nous, même des plus anciens parmi nous. Quoi. Voilà, donc le livre de Jean-Pierre, on en parlera, il faut en parler tout le temps, parce que c'est une très belle œuvre esthétique, et puis c'est une œuvre chargée de sens, quoi. Alors je pense que c'est peut-être temps de donner la main, Jean-Pierre, pour nous reparler un petit peu de Santi, même si on a quelques connaissances, comme toi, tu es comme un enseignant qui répète toujours la même chose, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que les élèves apprennent.
À condition de varier.
Oui, un professeur d'histoire ou de maths répète toujours la même chose, mais à chaque fois c'est un public différent.
Eh bien, Robert, je te remercie de ton introduction, oui, qui est fort intéressante, oui, et où j'ai même appris des choses, oui, figure-toi. Oui. Et je remercie aussi Monique, qui est ici, qui est ma collaboratrice et amie. Et donc, le trio que vous voyez est un trio qui est soudé par l'amitié. Et donc, vous dire que ce livre que j'ai fait est un livre dû à un miracle. Il y a des miracles qu'on appelle hasard, mais moi je tiens au mot miracle, dans la mesure où quelque chose de juste en est sorti. Ce quelque chose de juste, c'est le livre justement, qui nous dit de très près, c'est-à-dire à partir des tranchées, le développement de la guerre de 14 et l'horreur de cette, ce qu'on appelle une boucherie, mais c'est pire qu'une boucherie, parce qu'on a forcé des gens presque de tout âge, d'un côté et de l'autre du Rhin, à s'entretuer alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et il faut dire que j'ai trouvé assez vite les raisons de cette guerre. À partir de 1905, l'industrie de l'armement se met à se développer et à tourner de plus en plus vite. On recrute des ouvriers pour des usines qui font surtout des canons, qui font des fusils, etc. Et quelqu'un qui était au courant de cela d'ailleurs, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès a passé les dernières années de sa vie à avertir toutes les personnes qu'il pouvait toucher à travers les journaux, à travers ses conférences en Belgique, en France et même un peu en Allemagne, pour dire que si une guerre se déclenchait, ça serait une catastrophe mondiale. Et par conséquent, il a payé très cher, puisque la veille de l'éclatement de la guerre, il a été assassiné par un dénommé Villain. Ce dénommé Villain a été mis en prison. Et il a passé toute la guerre protégé par la prison, alors que Jaurès était mort. À la fin de la guerre, en 1919, l'assassin a été jugé et acquitté. Et c'est sa veuve qui a dû payer les frais de justice. Ça vous montre un peu l'état d'esprit des milieux autorisés, comme on dit, et gouvernementaux en 1919. Parce que l'assassin de notre grand tribun, de cet homme généreux qui a donné sa vie pour essayer de sauver, je dirais presque le monde, puisqu'il s'agit d'une guerre mondiale, eh bien non, on l'acquitte. Je passe sur la suite, mais plus ça va, plus je me sens proche de Santi. Et j'ai parlé de miracle. Ben, je vais vous dire comment ça s'est passé, un miracle. Simplement quand on déménage. J'ai déménagé de la rue Pascal, qui est à côté, à la rue Boussingault, qui est un peu plus loin vers le parc Montsouris. Et quand j'arrive rue Boussingault, je vois dans l'escalier un homme bien plus âgé que moi, mais monter des escaliers à une allure et avec une prestance extraordinaire. Il passe près de moi, il s'arrête, il me dit « C'est vous le nouveau locataire ?» Je dis « Oui, c'est moi. » « Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites dans le civil ?» Je dis « Je suis peintre. » Alors comme je suis à la fois prof et peintre et musicien, etc., je suis sorti peintre. C'est pas comme ça. Je sentais peut-être quelque chose. Il m'a dit « Mais moi aussi je suis peintre. Je vous invite dans mon pigeonnier. » Son pigeonnier, c'était deux petites pièces qu'il avait sous les toits, alors qu'il avait un appartement au deuxième et moi au troisième. Et là, il a commencé à me montrer des huiles, toujours des soldats, et puis aussi quelques dessins. Et je passais sur les détails, bien sûr, parce qu'il y a des détails qui sont personnels, qui n'appartiennent pas à la grande histoire, en quelque sorte. Mais le résultat, c'est que nous sommes devenus très amis, et ça appartient à l'histoire, et que jusqu'à la fin de son séjour à Paris, eh bien, nous sommes restés amis, nous nous sommes vus presque tous les jours. Et comme il était devenu veuf, eh bien, il venait déjeuner chez moi, et sa fille, sa belle-fille, sa Bru, en quelque sorte, qui voulait récupérer les trois pièces et les deux pièces là-haut, eh bien, elle dit « Mais papa, tu es seul maintenant que maman est morte. » Je ne suis pas seul parce que Jean-Pierre est là. Et il a tenu bon pendant 4 ans. Pendant 4 ans, elle est venue à la charge une fois par an pour lui dire « Il faut que tu partes à Nice, j'ai trouvé une maison de retraite pour toi. » Et la 5e année, il est venu me voir en me disant « Jean-Pierre, je n'ai pas pu faire autrement. » Elle a tellement insisté, j'ai cédé, je pars à Nice la semaine prochaine. Et la veille de son départ, il est venu me voir avec une petite valise. Il m'a dit, Jean-Pierre, là, il y a tous mes dessins des tranchées, il y a tous mes dessins de voyage, il y a énormément de papiers personnels, je te les donne, j'espère que tu arriveras à les faire publier. Et je savais pourquoi il me disait ça, parce que pendant des années, Marcel Santi a essayé de faire publier ses dessins et ses textes, il n'a jamais réussi, pourquoi ? Il a présenté un éditeur, l'éditeur lui disait « Très bien, ils sont bons vos dessins, mais revenez la semaine prochaine. » Et quand il revenait la semaine suivante, il lui disait « Ça n'intéresse personne. » Parce que, évidemment, ils ont communiqué avec l'état-major, et l'état-major, qui était fait des successeurs de Foch, des offres de Pétain, etc., eh bien, ne voulait en aucun cas qu'un poilu parle et dise sa vérité. Sa vérité qui était en même temps la vérité de tous les soldats. Et le résultat, c'est qu'il n'a pas été publié, bien qu'il ait été nommé peintre aux armées, c'est-à-dire un titre officiel. Alors vous voyez la contradiction. Et dès qu'il y avait une festivité quelconque concernant la guerre, il y allait. Dans le livre, il y a d'ailleurs une photo de lui avec
Poher.
Avec Alain Poher, qui était président du Conseil à l'époque. Alors, vous voyez ça, et en même temps sa rectitude. C'est un homme qui a voulu rendre hommage à tous ses copains, pas seulement par ses dessins, mais par un monument public. Et c'est lui qui a incité les généraux à créer le mémorial de Verdun. Il y a fait énormément de séjours, encore pendant que j'y étais. Il partait plusieurs fois de suite pour, avec des crayons, avec des instruments, pour faire 2 fresques. Et il a fait, au sous-sol, où il avait beaucoup de place, 2 fresques de 20 mètres de large chacune, sur 1,60 m de haut. Et ces 2 fresques représentaient la bataille, non pas des individus seuls, mais la bataille en train de se faire, c'est-à-dire les Allemands en train de tuer des Français, les Français en train de tuer des Allemands, avec une égalité totale. Il a d'ailleurs écrit là-dessus 2 pages d'introduction que j'ai mis dans le livre. Et au moment de la rénovation...
Bonjour.
Je pose des questions. Laisse-moi te questionner. Il faut encore 10 minutes. Hein.
Au moment de la rénovation du mémorial, ces fresques ont été démolies, sans même les avoir photographiées. Du personnel du mémorial avait fait des photos d'amateurs de très mauvaise qualité, mais me les ont données quand j'ai vu que les fresques n'étaient plus là. Donc, le regard de Marcel Santi est un regard d'en bas, c'est-à-dire le soldat qui replace dans son humanité les deux parties et aussi les différences de niveau. Et de là, ces réflexions qui ne sont guère agréables aux généraux, qui voyaient la guerre à travers leurs lorgnettes, alors qu'eux étaient dans les tranchées. Je crois que maintenant, ça serait bien peut-être de lire un passage de ce que Marcel Santi a écrit, parce que c'était pas seulement un grand peintre, mais en même temps, un grand écrivain, mais qui n'a pas écrit de livres, il a écrit des petits textes sous des images.
Des légendes.
Et donc, je pense que c'est bon d'entendre son écriture.
Oui, et ensuite, alors je vais lire juste brièvement un texte, et ensuite je te demanderai de préciser comment ont été classés les dessins, comment tu as classé ces dessins en plusieurs parties, et en donnant peut-être un ou deux exemples des légendes pleines d'humour et souvent de gravité aussi qui accompagnent ces dessins. Là, je lis brièvement un texte qui s'appelle « Le mont Kemel ». À chaque fois, il donne la date et le lieu où il a écrit ses textes. Il appelle tous ses camarades d'un seul nom, Grosjean. Voilà, c'est le nom générique des copains. Nous sommes revenus deux, du fossé de la route, l'un traînant l'autre, Grosjean et moi. Et bien scrupuleux, nous avions respecté le pourcentage fixé des pertes à subir, 75%. Mais au lieu des 2 jours qui nous étaient prévus, ce furent 7 grands jours pour 8 atroces nuits. Longtemps après, nos capotes brûlées, jaunes, fangeux, dévorées d'hypérite, la peau à vif, hagard, sans voix, les yeux profonds et le ventre esquinté, à la visite obligatoire, un toubib nous dit « Terminé, je ne peux plus évacuer personne, il ne resterait rien, ne buvez pas d'alcool. Et toi, petit, démerde-toi, bois du lait. » Tu te rends compte, Grosjean, tu te souviens? Quand nous étions lamentables, derrière les artilleurs anglais, cherchant à respirer, du lait. Ah, les vaches!
Vous voyez, il joue avec les mots en même temps.
Alors, as-tu classé les dessins en trois parties, je crois?
C'est très simple. J'ai commencé par les soldats en uniforme, de façon à montrer la matière humaine, le matériel humain.
Les acteurs.
Ensuite, je les ai montrés en train de travailler à creuser les tranchées. Ils sont en train de porter des poteaux, ils sont en train de porter des fils de fer barbelés, etc. Et quelquefois, ils se font tuer pendant ce travail. Voyez. Et ensuite, j'ai mis, après les travailleurs, il y a un dessin qui est très significatif, qui me permet de revenir à Santi. C'est le passage qui s'appelle « La guerre ». Et le passage de la guerre commence par un autoportrait de Marcel Santi, qui, comme je vous l'ai dit, était petit, un peu comme un chasseur alpin, et qui courait tout à fait courbé sous les balles et sous les bombes. Et il était agent de liaison, qui rétablissait les liens lorsque les fils du téléphone étaient arrachés, coupés, ce qui arrivait presque toujours. Ils ont eu très peu de vraies conversations téléphoniques, et alors lui remplaçait. C'est-à-dire qu'il apportait les nouvelles d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça qu'il appelait lui-même son carnet de balles, B-A-2-L-E-S. Et carnet de balles, c'était des carnets de A4, voyez-vous, 21-29-7. Et il avait fait dans sa vareuse, à droite et à gauche, une grande poche pour avoir 2 carnets sur lui. Et un jour, lorsqu'ils ont été bombardés, il y a un éclat d'obus qui est entré, qui voulait entrer, lui, l'éclat, dans la cuisse droite du soldat, et le carnet l'a empêché, parce que c'était du papier très épais, du papier pour faire des beaux dessins, et recouvert d'un carton très très épais aussi. Et donc, son carnet à dessin était détruit, mais ce carnet à dessin-là lui a sauvé la vie. Vous voyez, un peu le hasard aussi. Là. Et donc, après la guerre, eh bien, après il y a la guerre, il y a l'arrivée des Anglais, il y a des avions qui sont descendus, il y a, bien entendu...
L'exemple de légende, quelques légendes pleines d'humour, on peut donner quelques exemples. Troupes fraîches.
Troupes, par exemple, on voit arriver des renforts. Et en dessous, troupes fraîches à consommer avant l'hiver. On décompte un peu.
Page 76.
Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a aussi qui disent, ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Alors, dans un premier temps, on ne comprend pas. Parce que s'ils sont morts, ils ne peuvent pas se faire tuer. Ça veut dire que ce sont toujours les mêmes. Du point de vue social, ce sont les simples soldats, ce sont les sous-officiers, ce sont eux qui se font tuer, parce que les généraux, eux, ne se font jamais tuer. Par contre, ils encouragent et ils donnent l'ordre aux soldats de tuer. Le général Gouraud, que j'ai d'ailleurs connu, eh bien, a donné un ordre du jour pour tous les soldats qui étaient au front. Tuer le plus de boches possible. Il n'y a aucune, même parcelle d'humanité. Il aurait dit, faites le plus grand nombre de prisonniers. On aurait pu comprendre, mais tuez-en le plus. C'est-à-dire, l'horreur de la guerre, c'est le fait que des gens simples, des gens normaux, des deux côtés de la frontière, eh bien, ont été transformés en machines à tuer. C'est-à-dire déshumanisés. Et c'est la raison pour laquelle... Moi, je connais beaucoup, j'ai connu beaucoup d'anciens soldats de la guerre de 14. Aucun, pratiquement aucun, n'a parlé de ce qu'ils faisaient pendant la guerre de 14. Et c'était pourtant des gens qui avaient une très bonne mémoire, mais ils étaient marqués à vie d'avoir tué son prochain, comme on dit dans la religion. Et donc, il y a d'autres choses qui existent aussi. Par exemple, sur la couverture, j'ai choisi un dessin où on voit un soldat français gravement blessé, soutenu par d'un côté d'un prisonnier allemand et de l'autre côté par un soldat nord-africain. Il faut rappeler que de nombreux soldats d'Afrique, d'Algérie, du Maroc et de Madagascar ont été contraints d'être mobilisés alors qu'ils étaient, ils n'avaient pas la nationalité française, à Madagascar, eh bien, à faire la guerre. Et il y a eu comme ça 80 000 poilus de ce qu'on appelait les colonies qui ont été tués et 400 000 qui ont participé.
Oui, ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'au-dessus, le même humour, secteur calme, rien à signaler, alors qu'on voit que le français est très mal en point et qu'il ne survivra peut-être pas. Et en face, il y a la page d'à côté, un Français et un Allemand, côte à côte, et qui disent tous les deux, ni meurt-mère, la légende, jamais plus, plus jamais ça.
Jamais plus la guerre.
Voilà. Et quelques pages ensuite, pourquoi, et peux-tu dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles tu as fait une brève analyse sémantique de quelques légendes? Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de ces légendes?
Oui. Voilà, ce qui se passe, c'est que... Les écrits et surtout les dessins de Marcel Santi, quand il y a une légende, ben, il dit ça avec sa langue à lui, sa langue d'époque. Et donc, il y a des choses que nous ne comprenons plus très bien maintenant. Je donne un seul exemple là. Deux soldats, il y a un arrêt dans les combats, ils sont l'un à côté de l'autre, deux copains, et le premier dit au deuxième, moi. Qu'est-ce que tu faisais dans le civil? Il disait, moi j'étais général. Alors comment comprendre ça? Ça a besoin d'une explication. Ben, c'est très simple pourtant. Le général commande, il fait tout ce qu'il veut, y compris envoyer à l'assaut d'une colline 100 000, 200 000 soldats qui sont tous tués les premiers jours de la guerre. Et on ne lui fait rien, il a le droit, il a tous les droits, il a les droits de vie et de mort, comme si tous ces 200 000 soldats étaient des criminels, il les fait tuer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, ils ont droit au conseil de guerre et ils sont fusillés devant tous les autres. Il y a un film là-dessus qui s'appelle Le Pantalon, qui est un très beau film qui montre comment un soldat qui refuse de changer son pantalon blanc contre un pantalon rouge d'un blessé ou d'un mort, il dit non, moi je ne porterai pas, encore plein de sang. L'officier veut absolument qu'il le revêtisse. Il dit non, je ne veux pas. Ah, vous refusez, conseil de guerre. Et quelques heures plus tard, il est condamné à mort, à être fusillé, devant tous les copains. On amène toute la compagnie qui entoure le lieu de la fusillade, et puis arrive à cheval le général qui a donné l'ordre de le tuer. Voilà un peu une image. Alors, en ce qui concerne cette histoire, quand le soldat était chez lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, il était libre. Et quand il était soldat, il n'était plus rien. C'est ça qui n'a jamais été dit. Au contraire, on parlait du courage, de la bravoure. On a exagéré. Il y a eu des cas de bravoure. Effectivement, quand deux soldats s'arrangent pour ramener à l'arrière et pour le faire soigner un gravement blessé, ça c'est de la bravoure. Mais autrement, il n'y a jamais eu de bravoure du côté de l'état-major. Si bien qu'on a chassé un certain nombre de généraux à un moment donné, parce qu'ils n'avaient pas les résultats voulus par le commandement suprême. Et donc, on les a remplacés. Et je crois que après la guerre, lorsqu'en 1919, l'armistice est signé, j'ai eu l'occasion de voir les journaux de l'époque. Ces journaux disent « Enfin, Clémenceau, Foch, Joffre ont gagné la guerre en une journée et demie, parce que l'accord avait été signé. » Et même après l'accord, il y a encore eu des gens qui sont morts. Alors qu'est-ce qu'a fait l'état-major? Ils ont déclaré que les gens qui étaient morts le 11 novembre, eh bien, on mettrait la date du 10. Ça a été jusque-là. Et ces journaux, en quelque sorte, ne parlaient que une fois, ils sentaient la gloire, la magnificence, le courage de tout l'état-major, mais pas un mot sur les poilus. Vous voyez? Alors, on leur donnait des médailles. Et quand un soldat était mort, on envoyait quelquefois aux survivants des médailles. Et il y a même une médaille qui est extraordinaire, que j'ai mise dans le livre. C'est une médaille qui s'appelle
« Pour la civilisation ».
« La guerre pour la civilisation ». Vous imaginez? La guerre de la France contre l'Allemagne, c'est pour la civilisation. C'est pas Marcel Santy qui l'a fait, celle-là. Il en a fait deux pour Verdun. Et Marcel Santy a été gazé deux fois. Et là, on peut faire un rapprochement, qui est horrible d'ailleurs. C'est que Hitler aussi a été gazé deux fois. Mais, 1919, novembre, le Diktat von Versailles, c'est-à-dire, on ne peut pas traduire autrement que par traité de Versailles. Mais pour les Allemands, c'est quelque chose qui est comme un coup. Il n'y a pas eu de vraie négociation. Tout ce qu'ils ont demandé a été pratiquement refusé. C'est-à-dire que l'Allemagne a subi un traité qui obligeait le peuple allemand, qui avait déjà souffert pendant la guerre, à payer toutes les réparations, des sommes immenses. Ce qui a déterminé en Allemagne une inflation de 1000%, si bien que quelqu'un qui avait gagné 100 marks, eh bien, n'en avait plus que 0, plus que 10 pfennig, 10 sous, voyez. Ça a été la famine, ça a été le malheur, et ça a servi Hitler à faire sa propagande. La propagande, c'était, il y a eu un coup d'épée, un coup de poignard dans le dos. Et ça désignait les gens qui s'étaient battus contre la guerre. Et si, au début de la guerre, Jean Jaurès est assassiné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien à la fin de la guerre, ce sont deux personnes qui avaient refusé de voter la guerre au Parlement allemand, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Ils ont été assassinés à leur tour. Et de là, vous pouvez dérouler le fil, parce que après cette situation catastrophique, eh bien, Hitler a pu recruter des ouvriers, il y avait un chômage énorme, alors il a fait faire des autoroutes, pourquoi faire ? Bah, pour que les tanks circulent plus rapidement, c'était pas pour les voitures de tourisme que les autoroutes en Allemagne ont été construites, après il y en a eu d'autres évidemment, mais je crois que on peut dérouler le fil jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que une fois que la guerre et que la République de Weimar, qui était complètement corrompue à un moment donné, est tombée, eh bien, Hitler prend le pouvoir, Hindenburg, qui était un maréchal allemand, lui donne la place, et nous avons le 30 janvier 1933, où Hitler arrive au pouvoir, avec tout ce qui a suivi, les camps de concentration, etc., puis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création de deux Allemagnes, la RDA et l'Allemagne de l'Ouest. Voyez, vous avez donc tout un fil. On peut dire que sans la guerre de 14, il n'y aurait pas eu toute la suite. Et maintenant, parler du livre ?
Non, mais on doit... ça va. Oui, la deuxième partie, brièvement. La deuxième partie est consacrée à l'illustrateur publicitaire que Santi, qui avait fait les arts déco avant la guerre, il faut préciser, d'où la qualité exceptionnelle de ses dessins. Bon, il a vécu de commandes pour de grandes affiches, oui. Aussi bien Urgo oui. Que Marie Brizard, que... Enfin, on le
je
voit dans quelques
pages. Je fais
une
toute petite retouche, si tu permets.
Oui, mais je t'en
c'est
prie.
C'est qu'il est entré aux arts décoratifs... alors qu'il dessinait déjà merveilleusement oui. Bien. Et c'est oui. Là-dessus qu'il est entré. Il n'a pas appris beaucoup aux oui. Arts décoratifs, et n'en parlait d'ailleurs jamais. Mais c'est un grand dessinateur, reconnu comme dessinateur des armées. Et dans ce cas-là, quand il a repris son métier d'affichiste et de publicitaire, eh bien, immédiatement, les grandes marques se sont emparées de lui. Il a illustré Scontex, oui. La Moutarde Amora, oui.
Urgo, les machines à laver atlantiques.
Et la première machine à laver. Oui. Sans parler de la création de l'autoroute de l'Ouest. Vous voyez, tout ça a été payé par les gens qui avaient besoin d'un très bon dessinateur. Et on retrouve de ces dessins donc dans la partie publicitaire. Et la dernière partie, c'est une partie de voyage. Il y avait tout un carnet qu'il m'a donné également où son voyage le conduit de Paris jusqu'à Mougin. En passant par Saint-Cloud, Antilly, avec l'autoroute, en passant par Lyon, Grenoble, Cannes, jusqu'à Mougins.
Très beau dessin.
J'ai oublié Grenoble, excusez-moi. Parce que Grenoble, c'est important. À Grenoble, en 1968, il rencontre des footballeurs allemands qui venaient de Oberstdorf, c'est-à-dire un village très haut placé en Bavière. Il les rencontre et ils se parlent ensemble. Puis il lui raconte qu'ils ont un folklore qui est très beau. Il lui montre quelques petites images. Et il va faire un petit cahier qui est inséré dans le livre où on voit tous les personnages, par exemple la femme renard, tous les personnages du folklore bavarois, mais pas seulement bavarois, parce que vous savez que l'Allemagne a gardé son folklore très longtemps. Pourquoi ? Parce que la réunification de l'Allemagne s'est faite en 1800. La naissance du Reich, date de 1870, voyez. Et avant, c'était des Länder, c'était des royaumes. Il y avait des gens qui avaient un roi, d'autres qui avaient un président, etc. Et donc, c'était morcelé. Et ça se révèle aussi dans les langues. Les dialectes allemands existent encore aujourd'hui. Un Autrichien qui parle le viennois, par exemple, n'est pas compris par un Prussien qui va parler comme on parle à Berlin. Voyez. Mais il y a une langue qui a été inventée par un très grand écrivain, Lessing, qui est la BA. BA, Bühnenaussprache, ça signifie que c'est la langue du théâtre. Pour que les pièces soient jouées dans toute l'Allemagne, eh bien, il fallait une langue qui soit comprise partout et qu'on enseigne à l'école. Et c'est comme ça que l'allemand actuel est né. Voyez-vous. Et là, À Berlin, comme en Souabe, comme en Autriche, etc., c'est la même langue qui est dite au théâtre et donc dans les journaux, etc. C'est comme ça que s'est fait l'unification de la langue allemande.
Donc la dernière partie, ce sont des dessins du temps de la paix, un carnet de dessins qui sont magnifiques et où il n'y a que, entre guillemets, des personnages et des paysages, des paysages et pas de personnages, justement. Et il s'en est expliqué, je crois, il t'a dit pourquoi.
Je lui ai posé la question, Marcel, pourquoi on ne voit aucun personnage, ni enfant, ni femme, ni homme, dans tes paysages ? Il m'a dit, je réserve mes dessins de personnages à mes amis qui ont disparu dans la guerre. C'était extraordinaire, cette fidélité qui se manifeste. Il dessinait très bien les personnages. Il n'y a qu'une exception, c'est dans la pub pour la moutarde Amora. Là, on voit que des femmes, d'ailleurs, qui sont en train de faire la moutarde Amora et une maison qui date du 18e siècle, parce que cette moutarde, je l'ai appris par Marcel, elle est née en 1751. La moutarde, vous voyez.
Oui, on pourrait donner de nombreux autres exemples, mais il y a peut-être, on va laisser la parole s'il y a peut-être des questions ou des remarques de votre part. Et c'est vrai que le plus important, ce sont, je crois, les légendes à propos de ces dessins, non seulement leur qualité, mais les légendes pleines d'humour, par exemple, j'en ai plein le dos quand ils mettent le sac à dos avec tout le barda sur la... Ou bien, si je connaissais le ces trois petits points qui a inventé ça... Ou bien la tête, il faut les totos, qui est une analyse que fait Jean-Pierre Hammer aussi après sur les poux, le vocabulaire que les jeunes ne connaissent plus. Et il fallait faire la boule à zéro et le général ou commandant dit non, au double zéro. Voilà. Donc, bon, il y a comme ça des légendes, on met le masque à gaz et l'autre lui demande, tu vas aux fraises. Voilà. Donc, on meurt et on tombe pour l'empereur et la patrie, für Kaiser und Vaterland. Mais il y a aussi de nombreux dessins de fraternisation, comme on le disait tout à l'heure, y compris un Allemand qui met sa main sur l'épaule du Français et qui dit camarade français.
Camarade.
Camarade, pardon. Oui, voilà.